Alors, il va y avoir plein de slides, plein de trucs écrits. Ça va être assez austère comme présentation. C'est pour ça que de temps en temps, j'ai mis des trucs avec Buster Keaton. Parce que ça met un peu de gaieté dans la chose. Vous voyez, il est vachement gay comme garçon. Donc l'idée, c'est de parler de transformation. On associe souvent agilité et transformation. Et ce que je vais essayer d'amener comme idée, c'est que ce n'est pas suffisant. Et que vous aurez besoin, enfin on a besoin tous, d'ajouter une autre dimension qui est la dimension systémique. Voilà, c'est fini. C'est le message. On va développer un peu. Donc merci les sponsors. Je ne sais pas s'il y en a. Il y a des gens qui sont là sur la photo. Ouais, cool. Merci à vous. Il y a une deuxième. Hop là. Deuxième. Ils sont encore là. Voilà, encore merci. C'est grâce à eux que ça peut avoir lieu, donc c'est super. Donc je vous ai demandé qui vous étiez, mais voilà, c'est le temps de me présenter moi. Je m'appelle Christophe Kéromène. Mon boulot, c'est d'être catalyseur agile et respectueux de transformation continue et systémique. Waouh, plein de choses. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est catalyseur, c'est que je vais dans une entreprise et j'essaye d'en ressortir vivant. C'est-à-dire que je ne laisse pas des bouts de moi dans l'entreprise. C'est ça l'idée du catalyseur. C'est-à-dire qu'il arrive. Et par le fait qu'il soit là, il y a quelque chose qui se passe, qui ne se passerait pas s'il n'était pas là, mais il ne met pas des bouts de lui pour que ça marche. Sinon, au bout de plusieurs missions, il n'y a plus grand-chose qui reste. Respectueux, c'est parce que j'essaye d'être respectueux de ce qui se fait sur place, des relations qui existent déjà, et de tenir compte de cet écosystème pour intervenir. L'information intéressante à retenir, donc je suis parti d'une entreprise qui s'appelle SWAT. Sur le t-shirt, tout ça. C'est là. Donc là, si vous voulez entrer en contact avec moi sur LinkedIn, je pose pas mal de choses qui sont en lien avec la conférence d'aujourd'hui. Mais surtout, tout ce qu'on va voir, tous les slides, vous les trouvez sur SlideShare, ils y sont déjà. Donc vous embêtez pas à noter tout ce que vous verrez là. Vous pouvez récupérer ça en PDF, c'est cool. Petit moment de pub, c'est le seul. J'ai écrit trois bouquins autour de l'agilité, ça c'est le dernier. Il est là. Donc s'il y en a qui sont intéressés, j'en ai 3-4. Voilà. C'est 10 euros. Donc voilà, si vous voulez partir avec ça. Sinon, c'est sur Amazon. Voilà, c'était le petit moment de pub. Ouais, histoire vécue. Pourquoi cette conférence? Qu'est-ce qui m'a amené à parler de ça? C'est une expérience vécue. Donc je discutais avec un directeur d'SI. Une mission dans laquelle j'intervenais à tes souhaits, je sais pas qui c'était. Ouais. L'idée c'était déjà c'était une deuxième vague de transformation agile. Et puis donc je rencontre le DSI, il me dit bah c'est pas mal, hein, j'ai eu des bons échos de ce que vous faites, c'est bien ça. Mais votre machin d'amélioration continue, ça se termine quand là? Parce qu'on a de l'opérationnel à faire. Et là je me suis dit, il y a du boulot. Et donc, je lui ai répondu, ben, l'amélioration continue, rassurez-vous, c'est fini bientôt. Par contre, après, on va passer à au deuxième stade, qui est l'amélioration continue, continue. Et là, il m'a regardé bizarrement et je crois qu'il réfléchit encore à ce que ça peut vouloir dire. Mais c'est ça le sujet, hein, c'est que l'agilité, ce n'est pas un truc qu'on démarre, ça prend 6 mois, puis c'est fini, on est agile. Cool. C'est un truc, mauvaise nouvelle hein, pour ceux qui démarrent. Quand vous commencez, il n'y a pas de fin. Parce que amélioration continue, c'est bien dit dedans, ça ne s'arrêtera pas, quoi. Et c'est ça l'agilité. Donc voilà, c'est parler de ça. Donc il y a un plan, je ne vous l'explique pas parce que c'est juste pour vous rassurer. Mais on va le voir ensemble. Hop. Voilà. Avec quoi on démarre? Cette conférence, c'est la suite d'une conférence que j'ai faite à Nantes qui s'appelle Peut-on encore parler d'agilité sans parler de Scrum? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont entendu parler de Scrum? Voilà. Souvent, l'association qui est faite maintenant, aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est agilité, Scrum. Et donc, on va mettre en place de l'agilité en mettant en place du Scrum. L'idée, c'est que c'est pas vrai, quoi. On peut faire autrement. C'est ce qu'on va essayer de raconter ici. Donc la réponse, peut-on encore parler d'agilité sans parler de Scrum? Vous n'avez pas besoin de venir à cette conférence-là, c'est oui. L'idée, c'est qu'on peut amener, c'est-à-dire pas se contenter de parler, mais on peut faire des choses, on peut faire de l'agilité sans forcément mettre en place Scrum et sans forcément utiliser tout le référentiel, les rôles, les pratiques, le vocabulaire de Scrum. Parce que l'agilité, c'est autre chose que Scrum. Ce qui ne veut pas dire Scrum, c'est pas bien, hein. C'est juste que c'est un petit bout. Hop. Donc l'agilité, qu'est-ce que c'est? Quand on regarde, on a des bières agiles. On a. J'ai un petit problème, il faut que je me reste là, autrement ça ne marche pas. On a des fers à repasser agiles. Je vous assure, j'ai rien inventé. Et on a du patrimoine, conseil en stratégie patrimoniale agile. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quand quelqu'un vous dit, voilà, je voudrais plus d'agilité, on lui amène quoi, une bière ou un fer à repasser? Par quoi on commence? Donc il y a une évolution qui s'est faite. Le terme agile, il remonte aux années 90. Donc déjà, c'est une première erreur que certains peuvent commettre de croire que ça a été inventé en 2001 avec ce qui s'est appelé le manifeste agile. C'est pas vrai du tout, ça existait avant. Mais ça a été adopté dans le développement logiciel en 2001. En 2001, donc, ça avait une signification un petit peu plus circonscrite, on va dire. Aujourd'hui, 2019, agilité, on l'entend partout. Et donc, comme on l'entend partout, on a le risque que ça devienne un mot BS, hein, un truc qui veut plus rien dire, qui est marketing pur, quoi, et qui est vidé de toute possibilité, du coup. Donc c'est important de remettre du contenu dans ce mot-là. Quand on regarde dans la communauté agile, on a plein de choses comme ça. Le décès des méthodes agiles, Agile is dead. Donc ça commençait déjà en 2015. Agile is dead, encore un. Là, c'est the failure of agile, l'échec de l'agilité. L'agilité, on doit s'en débarrasser, hein, ça doit être détruit une fois pour toutes. Pourquoi l'agile est morte? Bah, oui, puisqu'elle est morte, on s'interroge pourquoi maintenant. Et puis là encore, ben ouais, bon, ok, l'agile est morte, et puis quoi encore? Donc d'un côté, on a un mot fourre-tout qui ne veut plus rien dire, et de l'autre côté, les gens de la communauté agile nous disent, bah, finalement, ce truc-là, c'est mort. Ah, on est un peu embêtés, quoi. Donc, mon explication, donc je vous la propose parce que vous êtes venus là pour l'entendre, mais c'est la mienne, hein, c'est qu'aujourd'hui, on est à la séparation de deux plaques tectoniques. Une première qui est ce que j'appelle l'agile IT. IT pour informatique, technologie. Donc, c'est l'informatique canal historique, celle qui a démarré avec le manifeste agile en 2001 sur des méthodes qui existaient déjà, Scrum, Extreme Programming, etc. Mais c'est ce courant-là où on va parler des méthodes agiles qui améliorent le pilotage des projets informatiques, vous voyez, tout un vocabulaire qui vient avec ça, et qui nous dit en gros, ben, une méthode agile, c'est quoi la cible? Ben, c'est les équipes de dev, et on va amener de l'auto-organisation sur les équipes de développement. Voilà. Ça, c'est un domaine, c'est un territoire historique. Et ce que je prétends aujourd'hui, c'est que c'est en train de se séparer d'un autre territoire qui est le territoire de l'agilité. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous disais, l'agilité, le terme existait avant le manifeste agile de 2001, celui des développeurs informatiques. Il était utilisé dans le domaine de l'industrie, manufacturing, pour désigner les nouveaux type d'entreprise qui apparaissait dans les années 90 et qui était essentiellement japonaise. C'est un terme qui était inventé par les Américains pour se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces entreprises-là qui viennent faire du chiffre d'affaires chez nous et qui sont en train de prendre de plus en plus de parts de marché, les Toyota, les Honda, etc. C'était ça les entreprises agiles à l'époque. Et donc on a une définition de cette agilité-là, qui est une caractéristique et non pas une méthode. C'est une caractéristique qui permet à une organisation de prospérer dans un environnement en changement constant et imprévisible. C'est-à-dire en gros celui où on est. Hein, le monde de Trump, le monde de Macron, tout ce monde-là, le Brexit. On ne sait pas ce qui va se passer. Personne ne sait. Donc c'est là où on a besoin d'agilité. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, donc cette définition-là, c'était la définition de 1991, et elle est encore reprise par un monsieur qui s'appelle Steve Dunning, qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Age of Agile, en 2018. Je vous le conseille vraiment, c'est un super bouquin, et il reprend exactement la même définition. Donc ça reste valable. On ne parle pas de fer à repasser, on ne parle pas de bière, on est sur une caractéristique d'entreprise. Ça va sur cette première idée-là. Et donc aujourd'hui, ben, y a des gens qui ont envie de rester là. Dire les méthodes agiles, c'est des trucs d'informaticiens, c'est entre nous, c'est pour les équipes, et c'est très bien. Et puis il y a d'autres personnes qui disent, ben, aujourd'hui, puisqu'on est de plus en plus là-dedans, on a besoin de plus en plus d'agilité, et on se pose la question, comment faire? Comment aider les entreprises à faire ça? Moi, je me suis positionné plutôt sur ce domaine-là. C'est une question de modèle, hein, c'est une question de d'où on regarde les choses. Donc, tous les modèles sont faux, c'est-à-dire tout ce que je vais vous raconter là, c'est faux, mais des fois, c'est utile. C'est l'idée. Pourquoi? Parce que c'est le slide d'après, c'est juste une histoire de perspective. On regarde les choses, suivant l'angle où on est, je peux regarder, je vois un carré, et j'ai raison de voir un carré, et je change un petit peu de position, je vois un cercle, et j'ai raison de voir un cercle. Le problème, c'est que quand vous mettez ces deux personnes-là à discuter, ça va prendre un certain temps avant qu'ils se rendent compte qu'ils parlent de la même chose. D'accord ? C'est la même chose sur l'agilité. Il y a différentes perspectives, différents angles de vue. Hop, on continue. Alors, donc j'ai dit que ça allait parler de systémique, donc je vais remonter dans le temps. On va remonter en 1959 dans la Silicon Valley, qui n'était pas la Silicon Valley encore à l'époque, mais dans la petite ville de Palo Alto, donc en Californie, où il se passe un truc qui aura un impact considérable, c'est la création de ce qui s'est appelé le Mental Research Institute, le MRI. L'idée, c'était de changer la manière dont on faisait de la thérapie familiale. À l'époque, quand on parlait de psychothérapie, c'était des trucs qui duraient des années, qui coûtaient très cher et qui n'avaient pas toujours de grands résultats. Et puis, donc, il y a des gens, donc des psychologues, des thérapeutes, ouais, j'allais dire thérapistes, mais non, ça c'est en anglais, thérapeutes, qui ont dit, on va utiliser les idées d'un monsieur qui s'appelle Gregory Bateson, qui est un anthropologue, et qui prétend en fait que dans tous les problèmes humains, il y a un truc qui joue un énorme rôle, c'est la communication. Et qu'en fait, on peut à peu près regarder tous les problèmes humains sous l'angle de la communication. Encore une fois, c'est un modèle, c'est faux. Mais c'est un modèle qui est vachement intéressant. Et donc ces gens-là ont pris ce modèle-là et se sont dit comment on peut faire de la thérapie différemment en regardant non pas l'individu, je vais prendre un individu au hasard, j'ai rien, hein. C'est toi tu as un problème, d'accord, et je te regarde toi et je vais t'inviter à te regarder à l'intérieur de toi, tes parents, tes machins, tes grands-parents. Vous voyez, ça c'est un angle. Ou bien je vais regarder, tu as un problème avec qui? Et qu'est-ce qui se passe quand tu as ce problème avec cette personne ou avec cet environnement? On ne regarde pas la même chose. On va regarder la communication qui se fait entre la personne et ses interlocuteurs, son environnement. C'est ça qui se passe donc, à Palo Alto en 1959. Suite à ça, hop là, on revient en arrière. En 1967, donc, y a une branche qui est créée dans le MRI, qui est le Centre de thérapie brève. Donc avec ces trois personnes-là, Dick Fish, Paul Vaslavic, John Wickland, et eux, ils vont chercher donc à appliquer le modèle de Bateson non plus à la thérapie familiale, mais à tout type de problèmes psychologiques. Et donc ils vont se dire qu'est-ce qu'on peut faire qui dure pas des années, qui a un impact significatif et qu'on peut faire dans un temps très court. Combien de temps, combien de séances on pourrait obtenir un impact positif? Allez, en 10 séances. C'est la naissance donc des thérapies brèves, et le chiffre 10, c'est eux qui l'ont choisi comme ça, complètement arbitrairement. Ils se sont dit, si en 10 séances, on n'est pas capable d'avoir un impact, ce n'est pas la peine de continuer. Donc ça, c'est le centre de thérapie brève, et ils vont baser donc toute leur recherche sur amener de l'impact, c'est du changement, sur la partie interactionnelle qui avait été amenée par Gregory Bateson. Donc encore une fois, la communication, les interactions, les relations, c'est ce qu'on va regardé dans cette approche-là. C'est ce qu'on a appelé donc la systémique interactionnelle ou systémique stratégique de l'école de Palo Alto. Peut-être que c'est des noms qui peuvent être familiers à certains d'entre vous. Donc ces gens-là ont beaucoup écrit, surtout le monsieur qui s'appelle Paul Vaslavik, qui n'a pas le nom le plus facile à retenir. Et donc il y a un premier bouquin qui est The Tactics of Change, donc qui est en 82. C'est pas dans l'ordre, mais celui-là est intéressant parce que il nous dit on peut pas ne pas théoriser. C'est-à-dire qu'en entreprise, on a souvent affaire, quand on est prestataire externe, à des gens qui vous expliquent OK, on voudrait changer, mais attention, hein, pas de philosophie. On veut du concret, des pratiques. Et ces gens-là nous disent oui, mais concret, pratique, ce sont les signaux visibles de modèles internes. Et si on ne change pas les modèles internes, concrets, pratiques, sont toujours les mêmes. Et quand on veut transformer, c'est ce qu'on va explorer un peu plus, qu'est-ce qu'il faut transformer ? Concret, pratique, ou modèle interne ? C'est ça la question, comme dirait Hamlet. Donc on ne peut pas ne pas théoriser, nous disent-ils. Et donc ils disent le danger, c'est qu'on reste, c'est quand on n'explicite pas les choses, on ne peut pas regarder nos modèles, et donc si nos comportements aboutissent à des problèmes, on ne peut pas inspecter nos modèles et on ne peut pas les changer, les adapter. Et donc on a un souci. Donc le premier truc ici, ça va être de dire, en fait, il va falloir rendre visibles déjà nos modèles de pensée, les prémices sur lesquelles on se fonde pour faire quelque chose. Pour les gens qui connaissent justement, Scrum, dont on parlait tout à l'heure, Scrum, il y a trois piliers. Est-ce qu'il y a des... J'ai vu qu'il y a des spécialistes tout à l'heure. Les trois piliers Scrum, vous connaissez ? Les spécialistes ? Ouais. Donc, premier pilier. Donc, inspecter. Pardon, rendre visible, excusez-moi, du coup, je suis resté inspecté. Rendre visible les choses, donc les prémices et les hypothèses, pour inspecter, c'est-à-dire regarder quand est-ce que ça marche, et pouvoir les adapter. Donc ça, c'est le premier rapprochement qu'on peut faire entre donc, une approche agile, celle qui est dans Scrum, et puis l'approche qui a été adoptée en systémique. C'est-à-dire que la première chose, c'est de rendre les choses visibles. C'est uniquement quand c'est visible qu'on peut regarder et adapter. Donc mes prémices, ce sont lesquelles ? Donc première chose, c'est de regarder toujours le contexte où j'interviens comme un système. Le système, ça a été introduit en France par un monsieur qui s'appelle Joël de Ronet, donc d'après des recherches qui ont surtout eu lieu aux États-Unis. Donc ça date de 1975, ces concepts-là, avec un bouquin qui s'appelait le Macroscope. Un système, c'est un ensemble d'éléments en interaction. Donc on retrouve des choses qui sont dans Manifeste Agile, les individus, les interactions, qui est auto-organisé. D'accord ? Donc il n'y a personne qui dit à chacun « toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça ». Donc les éléments interagissent entre eux, ils s'auto-organisent. Pourquoi ? Pour remplir une finalité. Alors souvent la finalité, elle est assez simple. Hein. C'est la première finalité d'un système, c'est quoi ? Se perpétuer. Et souvent c'est juste ça. D'accord ? Mais c'est, voilà. C'est ça qui va amener les éléments à interagir. Donc c'est ça un système, un ensemble d'éléments en interaction. Et donc il y a une école qui s'est intéressée à qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ces systèmes, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les interactions. Donc c'est l'école de Palo Alto, comme je vous disais tout à l'heure. Et pour ça, elle s'est fondée sur un certain nombre de courants théoriques. Donc la théorie de la communication, la théorie des systèmes, la cybernétique. La cybernétique, c'est un mot vachement compliqué pour un concept assez simple à expliquer, mais qui peut être compliqué à mettre en œuvre, qui est l'idée que j'essaye quelque chose. À partir de là, il y a deux possibilités. Enfin, il y en a trois, mais on va rester avec deux. La première, c'est ce que j'ai essayé. Je regarde, j'inspecte. Ça marche ou ça marche pas ? Si ça marche, qu'est-ce que je fais ? Je continue, puisque ça marche. J'en fais plus. Si ça marche pas, qu'est-ce que je fais ? J'arrête. Je suis en train de faire un truc qui marche pas. C'est tout simple. Mais en entreprise, le manque d'agilité, c'est souvent l'incapacité à faire ça. L'incapacité à arrêter de faire quelque chose dont pourtant je sais que ça ne sert à rien ou que ça ne marche pas, ou pire, que ça aggrave mes problèmes. Et amener de l'agilité dans une entreprise, c'est travailler sur cet aspect cybernétique. Se rendre compte de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, faire plus de ce qui marche et moins de ce qui ne marche pas, petit à petit. C'est ça. Donc il y a eu ces courants-là. Il y a deux personnes qui ont irrigué ça, donc Gregory Bateson, l'anthropologue dont je vous ai parlé tout à l'heure, Milton Erickson, qui était lui un hypnothérapeute. Milton Erickson, lui, il avait ce concept fondamental qui est que quand les gens arrivent avec un problème en thérapie, la solution, elle est chez eux, elle n'est pas chez le thérapeute. Et donc tout le boulot du thérapeute va être d'aider les gens à se reconnecter avec leur propre solution. Et il dit pour eux, pour lui, un problème, c'est un manque de connexion avec ses ressources internes. Et une thérapie, c'est reconnecter la personne avec ses ressources. L'idée qu'on va prendre en entreprise, c'est exactement la même chose. Une entreprise qui a un problème, ce n'est pas une solution externe, c'est une entreprise qui s'est déconnectée d'un certain nombre de ressources. Et donc, on va essayer de l'amener à se reconnecter à ses ressources propres. Donc, comme je disais tout à l'heure, création du MRI et puis du centre de thérapie brève avec Václavik Dickfisch. Il y a eu des descendants, donc ça, c'est les années 70-80. Par exemple, vous connaissez peut-être les approches narratives où on réécrit les scénarios, les histoires. Donc, ça vient de ce courant-là. Vous connaissez peut-être aussi l'aspect solution focus qui vient aussi des travaux de Palo Alto. Et aujourd'hui, les travaux de Palo Alto continuent avec des écoles comme l'Institut Gregory Bateson à Paris, à Liège, Giorgio Nardone, qui est un thérapeute et un docteur qui intervient aussi en entreprise italien, à Arezzo. Donc, c'est des choses qui sont encore vivantes. Hop. Écran bleu. Voilà. Donc, Václavik nous dit, lui, que bah, justement, même si la science du management traite de structures plus complexes que la famille, le couple ou l'individu, l'épistémologie systémique, c'est-à-dire tout ce qu'on a commencé à voir ensemble, va aussi servir pour une organisation et pour du management. Donc, ça paraît intéressant de regarder ça. Donc, je rentre en sparant mes hypothèses. Première hypothèse, donc, il est possible de parler d'agilité pour une entité et pas simplement pour de l'informatique. Deuxième hypothèse, on peut développer de l'agilité sans passer par Scrum. Troisième hypothèse, le manifeste agile ne suffit pas. Il y a plein de choses intéressantes dedans, mais il manque des choses, on va revoir ça. Une entreprise peut être considérée comme un système complexe ouvert. La notion d'ouverture par rapport au système qu'on a vu tout à l'heure, c'est le fait que ce système échange de l'information avec l'extérieur. Et donc, du coup, l'information va venir le perturber. Et donc, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir changer et s'adapter. Donc une entreprise, on peut modéliser ça comme un système complexe ouvert. La systémique, ça va être justement ce qui va nous amener des nouveaux modèles, ce qu'on appelle le changement de paradigme. C'est-à-dire, au lieu de regarder les choses comme des cercles, hop, on va se déplacer, on va regarder, on va avoir des carrés. Du coup, ça va nous amener de nouveaux outils, de nouveaux moyens d'intervention sur les systèmes. Voilà. Et puis, donc, à partir de ça, on va pouvoir adopter des stratégies de transformation. Donc la systémique nous dit en fait que souvent nos problèmes viennent du fait qu'on est toujours dans la posture où on regarde les choses, on voit que des carrés. Donc ça c'est une logique de fonctionnement. La logique en entreprise, elle est essentiellement cartésienne. Les rites de Newton, Descartes, etc. Et l'idée de transformation, c'est de changer de logique. Donc non pas d'abandonner complètement, mais de compléter ces logiques rationnelles avec d'autres logiques pour résoudre les problèmes créés justement par la logique rationnelle. Je ne sais pas si vous avez vu le truc, c'est fabuleux, hein, la petite animation. Ça, c'est complètement systémique. Hein, on a un gars qui prend du sucre, il met dans une petite tasse, et Buster Keaton, il regarde ça, il dit, mais c'est complètement inefficace ton processus. Regarde, je vais te montrer. Voilà, ça c'est purement systémique. Parce que en fonctionnement normal, on se dirait, ouais, mais attends, c'est sucré, diabétique, mais on fait des jugements moraux sur les choses. Systémique, il n'y a pas de morale. On regarde simplement l'efficacité, on se dit, bah, tiens, il y a une autre manière de faire qui apporte un autre résultat. Quoi. C'est tout. Après, le résultat, bah, c'est la personne qui consomme qui est responsable du résultat. Si on regarde, donc, Extreme Programming, c'était des gens qui connaissent XP. Ouais. En 2001, on parlait que d'XP. les premiers bouquins qui sont sortis en français sur l'agilité, c'était que XP. Pour vous montrer un petit peu l'évolution, aujourd'hui, c'est que Scrum partout, machin. XP, ça s'adressait aux développeurs. Le premier bouquin que j'ai acheté, c'était cela. Et dans XP, l'idée, c'est de vous montrer qu'il y a déjà des choses qui sont systémiques. Dans XP, l'idée, c'était de faire plus de ce qui marche. Vous vous souvenez de la cybernétique? On va faire plus de ce qui marche. Et l'extrême, dans l'extrême programming, c'est ce concept, cette idée géniale de Ken Beck de dire on va pousser à l'extrême tout ce qui marche. Par exemple, la revue de code. Ça marche bien pour trouver des erreurs. Si on fait des relectures croisées, je relis le code qu'a écrit un collègue. Ken Beck, il dit si ça marche bien, il faut en faire plus. Et donc, il faut en faire plus. Ça va donner du pair programming. En permanence, on va être en train de relire le code qu'on est en train d'écrire. On ne va pas attendre que le code soit écrit, on va le faire en direct. Ça, c'est le concept de pousser à l'extrême les choses. Deuxième exemple de pensée systémique, c'est la position paradoxale. En informatique, il y a un truc qui est très dur, c'est faire l'intégration. C'est-à-dire qu'on a plein de gens qui écrivent des petits bouts, puis à un moment, on rassemble les petits bouts, on essaye de faire le produit logiciel avec, et là, ça pète de partout. Ken Beck regardait ça, il disait, en fait, si ça fait mal, il faut le faire plus souvent. Et donc, dans les pratiques, ici, on a une des pratiques qui est l'intégration continue. Donc, on va faire l'intégration en continu, puisque c'est ça qui nous pose problème. On ne va pas attendre d'avoir le problème une fois par mois ou une fois tous les 6 mois, on va avoir le problème tous les jours, parce que comme ça, comme il fait vachement mal, on va s'habituer à le résoudre. Donc ça, c'est de la pensée systémique aussi, la pensée paradoxale. On ne va pas éviter les problèmes, on va au contraire aller affronter les problèmes directement. Paul Vasselevic, donc il a écrit plein de bouquins, je vous disais, donc il y a deux petits bouquins qui sont assez rigolos à lire, qui sont tout petits. Vous pouvez commencer par ça. Le premier s'appelle Faites-vous-même votre malheur, donc il vous donne des recettes pour devenir plus efficace, pour être encore plus malheureux qu'on est. L'idée, le concept derrière, c'est que pour réparer quelque chose, dans la logique systémique, il faut déjà comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et donc, si on est capable de faire que ça marche encore moins bien, on est peut-être en train de trouver des idées pour en fait faire que ça marche mieux. Vous voyez, pour c'est paradoxal, ça met des nœuds dans la tête des fois. Et donc, il a une phrase magique, Paul Vasselavic, qui est quand la solution, c'est le problème. Alors, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire plein de choses, mais ça veut dire qu'il y a un moment où ce qu'on appelle en systémique les tentatives de solution, c'est-à-dire ce qu'on essaye de faire pour résoudre une difficulté, va contribuer à faire que le problème continue d'exister. Ça va sur cette idée-là? Imaginez, je viens dans cette salle tous les jours, et d'habitude, il n'y a personne. Et donc, quand je passe dans cette salle, je vais d'ici à la porte, et là, aujourd'hui, je ne peux pas, parce qu'il y a des gens qui sont là. Ça m'embête, c'est une difficulté. Mais pourtant, quand je viens là d'habitude, puis il est encore là. Ils ont encore. Oui, donc on va reproduire comme ça la même chose. Et changer, c'est quoi? Changer, c'est s'arrêter et se dire, mon comportement habituel est peut-être inadapté parce que le contexte a changé et je dois trouver un nouveau comportement. Peut-être qu'en essayant par là, en faisant le tour, je vais y arriver. Vous voyez l'idée? C'est qu'à un moment donné, mes habitudes comportementales, ce que j'ai appris, va créer mon problème et je vais rester bloqué à ne pas trouver de solution parce que j'essaye de faire toujours plus de la même chose. Ça, c'est une approche systémique. Alors, stratégie cybernétique, c'est si ça ne marche pas, il faut faire différemment. Donc, des exemples. Alors, on va prendre des exemples informatiques pour faire le lien avec l'agilité informatique. En informatique, on a plein de bugs. On a donc des études qui ont été faites qui ont montré que les bugs qu'on avait en sortie, souvent, ils étaient là dès le départ. Ils étaient là, en fait, dès le cahier des charges qu'on écrivait au départ. Donc on s'est dit, si on a ces bugs-là en sortie, pour faire moins de bugs, qu'est-ce qu'il faut faire? Logique rationnelle, passer plus de temps au départ à avoir un cahier des charges de meilleure qualité. Et donc ça, on l'a fait. On a passé, on a écrit, donc du coup, on a eu des processus, des modèles pour écrire la documentation de cahier des charges. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Qu'on avait encore plus de bugs. Pourquoi? Parce que cette démarche, elle était super rationnelle. Mais on l'a poussé, et on est arrivé dans certains cas à consacrer plus de 60% du temps à faire de la documentation. Du coup, il restait 40% du temps du projet ou du budget pour faire le produit, pour faire réellement le boulot, faire du code. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus que 40% du temps pour faire des choses? On ne les fait pas bien. On prend des raccourcis. On crée plus de bugs. Et donc ce processus-là, qui était un processus logique, se traduisait par en fait une aggravation du résultat. Et c'est ça, l'agilité dans l'informatique, c'est de se dire, tiens, peut-être que cette façon de procéder ne fonctionne pas et qu'il faut faire un pas de côté et faire différemment. Autre exemple, j'ai des soucis avec ma zapette. Voilà. Donc, debug en informatique. Mais on va dire non, il ne faut pas écrire de la documentation, on va faire ce qu'on appelle un 180 degrés. On va changer notre logique d'approche. On va dire il faut partir du code, il faut faire du pair programming, il faut faire l'intégration continue. Donc on va plutôt se centrer sur le code plutôt que de se centrer sur la documentation, ce qui était la démarche logique pour faire mieux. La stratégie systémique, c'est aussi ce qu'on appelle sortir des auto-tromperies, des illusions. C'est un terme qu'utilise Giorgio Nardone. Deux exemples d'illusions, on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps, donc qu'est-ce qu'il faut faire en logique rationnelle? Il faut aller plus vite. Il faut augmenter la productivité. C'est ce qu'on a fait depuis 20 ans. C'est une démarche complètement rationnelle. L'auto-tromperie dont parle Giorgio Nardone, c'est quoi? C'est de croire que cette démarche-là, elle n'a pas de limite. Or, elle a une limite extrêmement physique. C'est que le temps. Vous aurez beau augmenter votre productivité sans arrêt, vous n'aurez pas plus de 365 jours par an avec des journées de 24 heures. Donc cette démarche-là, il y a une seule certitude, c'est qu'elle va dans le mur. Elle va dans une limite. Et à un moment donné, il faudra faire autrement. Et on y est. D'accord? Et donc la question n'est plus, si on fait le 180 degrés, de comment gérer mon temps plus efficacement. Ma question est. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis de faire qui ait de la valeur au moment où je le fais? Parce que de toute façon, je vais assumer que je n'aurai pas assez de temps pour tout faire. Vous voyez, c'est ça le changement de logique. Au lieu d'essayer de faire les choses plus vite, je vais choisir mes batailles et choisir les bonnes choses à faire. C'est ça qu'on appelle l'agilité. Autre exemple, j'ai besoin de savoir où on en est dans un projet, dans une activité, c'est tout à fait normal. Donc, démarche rationnelle. Je vais demander du reporting, je vais demander du KPI, des indicateurs, etc. Résultat, on a une illusion. On croit que parce qu'on a du reporting, du KPI, on sait ce qui se passe. Un des pathologies, des symptômes du manque d'agilité, par exemple, c'est quand on vous parle de pourcentage d'avancement. C'est une vaste fumisterie, un pourcentage d'avancement. Il faut en être conscient. Je ne sais pas s'il y a des chefs de projet. C'est juste n'importe quoi, un pourcentage d'avancement. Ça sous-entend que l'avancement est linéaire. Ça sous-entend que quand on est à 90%, les 10% qui restent vont nous prendre le même effort ou le même temps que les 90% d'avance, ce qui est complètement faux. On sait bien que c'est à la fin que ça se gâte. C'est là qu'on a à résoudre tous les problèmes qu'on a soigneusement poussés jusque-là. D'accord? Et donc souvent, en fait, c'est asymptotique. C'est-à-dire que les 10% qui restent, c'est ceux qu'on n'arrive jamais à finir. Et c'est ceux qui font qu'il y a plein de projets, plein de qui sont en retard. Oui, le genre de processus. Donc, en agilité, ben, on ne va pas travailler avec des KPI, du reporting, enfin, on va essayer de limiter au moins le recours à ça. On va dire, ben, la seule manière de regarder les choses, c'est d'instaurer de la transparence et de la confiance. Comment on instaure de la transparence et de la confiance en montrant quelque chose qui marche? Et ça, vous retrouvez ça dans le manifeste Agile. Il dit, la seule indicateur de progrès de quelque chose, c'est si vous êtes capable de montrer que ça marche. Sinon, vous êtes juste en prétention. Et donc, vous êtes dans une illusion. Et ça peut être dangereux. Deuxième bouquin de Vaslavic, donc, comment réussir à échouer? Plein de bonnes recettes. Donc, toujours plus de la même chose donne toujours plus du même résultat. Ça, c'est une autre des phrases magiques de Vaslavic. Donc, vous retenez deux phrases à retenir. La première, c'est quand la solution crée le problème, ou c'est le problème. Et la deuxième, c'est toujours plus la même chose, bah, ça donne toujours plus de mauvais résultats. Donc ça, c'est le concept de cybernétique. Donc il faut changer nos logiques. Faire un petit jeu, ouais, on a le temps. Vite fait, je vous demande de vous lever. C'est le moment où on fait du sport. Là, vous ne me voyez plus du tout, mais je vais... Voilà. Vous vous retournez, vous repérez quelqu'un dans la salle, ça va être le bazar total, ça va être génial. Voilà. Et vous comptez combien de pas, donc vous repérez quelqu'un précisément, combien de pas il vous faut pour aller vers cette personne. Retournez-vous les uns vers les autres, hein. Prenez quelqu'un qui ne soit pas juste à côté de vous, forcément, autrement c'est pas drôle. C'est bon? Vous avez repéré quelqu'un? Nombre de pas, vous l'avez dans votre tête? Maintenant, allez-y. Ok, top. On va arrêter là. Vous voyez le bazar? Merci. Donc, pouvez vous rasseoir. Eh bien, ça, vous venez d'expérimenter l'illusion de la gestion de projet. C'est-à-dire que tout va bien tant qu'on n'a pas commencé le projet. Parce que dès qu'on a commencé le projet, ça bouge dans tous les sens et nos estimations, ça devient juste n'importe quoi. Ça va sur cette idée-là? Alors, donc l'agilité, on peut raconter ça comme une tentative de dissiper les illusions. Et la plus grande illusion qu'on a aujourd'hui, elle nous vient du monde scolaire, il y a quelques conférences autour de ça, c'est l'illusion que on peut appliquer des lois, toutes choses égales par ailleurs. Vous savez, c'est ce qu'on faisait en physique à l'école, avec les ressorts, les machins, les forces, toutes choses égales par ailleurs. Mais dans la vraie vie, quand vous faites un projet, vous ne pouvez pas dire, OK, c'est fini, maintenant je fais un mur, et toutes choses égales par ailleurs, on va travailler qu'entre nous. Le monde, il continue à bouger autour. Et c'est le problème qu'on a justement avec toute la pensée rationnelle, cartésienne, avec toute la gestion de projet traditionnelle, c'est qu'elle est basée sur cette approche-là qui dit on est capable de décomposer des choses, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire de manière isolée de l'environnement. Et ça a été vrai il y a quelques années parce que les choses bougeaient plus lentement, mais aujourd'hui, en particulier avec la globalisation, avec Internet, le monde bouge tellement vite qu'on n'a même pas commencé à faire, comme tout à l'heure, que tout ce qu'on avait prévu est déjà faux. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? On ne peut plus raisonner de la même façon. Donc, les Gantt, les machins, bah, ça ne va pas bien marcher parce que le Gantt, c'est juste la représentation de l'estimation du nombre de pas que vous avez fait tout à l'heure. Donc, on est dans un monde qu'on appelle VUCA, donc un monde de volatilité, d'incertitude, de complexité et d'ambiguïté. Donc, dans ce monde-là, le modèle qu'on utilise, qu'on propose, donc on le rend transparent, c'est dire on ne peut pas y aller avec du plan linéaire, prédictif. Il va falloir en permanence tenir compte de tout ce qui se passe. Et le seul moyen pour faire ça qu'on connaisse, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont meilleurs, mais aujourd'hui, le seul qu'on connaisse qui marche un petit peu, c'est d'explorer. On essaye quelque chose. On perçoit la différence qu'a amené ce qu'on essayait de faire. Et on réagit. C'est-à-dire on inspecte et on adapte. Et ça, on le fait de manière circulaire et non pas de manière prédictive, séquentielle. C'est ça l'agilité. Donc l'agilité, c'est amener cette culture-là de la circularité, amener la culture de l'expérimentation, amener la culture de j'essaye un petit truc, je regarde ce que ça donne, cybernétique, ça marche, j'en fais plus, ça ne marche pas, j'arrête, j'essaye autre chose. On dit souvent, agile, c'est l'inversion du triangle de fer. Il y a des gens qui connaissent ça? Une. Bon, ben, on le dit. Hein, voilà. Donc, on dit qu'un projet traditionnel, en fait, il y a trois paramètres principaux. Il y a le budget, il y a le délai, et puis il y a le périmètre. Et on dit en agilité, ben, on renverse les choses. Le budget est fixé, le délai est fixé. Et donc, pour qu'on puisse s'adapter, il faut conserver une variabilité sur le périmètre. Ce qui était un peu effectivement, ce qui était les concepts des premières approches agiles. Mais c'est un peu court. Ça conserve quand même cette logique un peu rationnelle derrière. Parce que si on regarde donc ce triangle-là inversé, budget, planification et périmètre, ce sont des variables de la complexité. Et derrière, les variables qui sont en jeu, le périmètre, c'est la valeur qu'on essaye d'amener. D'accord? On ne fait pas une fonction pour faire une fonction. On essaye d'amener de la valeur, de répondre à un besoin. La planification, c'est une question du temps. Et le budget, ben, c'est essentiellement consommé par des humains, encore principalement sur la majorité des projets. Et là, on est sur des choses qui sont du coup complexes. Et l'approche agile là-dedans, réelle, c'est de considérer que essayer de contrôler ces variables complexes-là, ça reste de l'illusion, même si on dit c'est le périmètre, etc. Et que la représentation en logique circulaire, c'est celle qui va dire qu'en fait, on a interaction entre toutes ces variables-là. Et la cible agile consiste à amener de la souplesse dans les interactions, au niveau d'un portefeuille, par exemple, de projets dans une entreprise, à être capable à tout moment de pouvoir jongler entre ces différentes variables-là, d'être capable d'arrêter un projet, d'être capable de mettre plus de ressources dans un autre projet, etc. Alors, comment changer pour être agile ? Hop, qu'est-ce qui s'est passé là ? On recommence. Pouf. Quand on se pose cette question-là, en fait, notre langage, ça c'est l'approche narrative qui a beaucoup travaillé là-dessus, induit déjà un raisonnement particulier et induit déjà, du coup, une gamme de solutions. Je vais expliquer ça. Donc changer, donc c'est le concept, les Anglais ont souvent des mots merveilleux pour ça, c'est le concept words make worlds, hein, les mots construisent des mondes. Changer, si on regarde dans le dictionnaire, ça veut dire passer d'un état à un autre. C'est la définition du Larousse, vous pouvez vérifier. Et le Larousse ajoute, exemple, aimer le changement. Et donc la représentation qu'on fait, si on prend cette définition-là, d'un coach agile par exemple, c'est quelqu'un qu'on va appeler, qui va nous aider à passer d'un état où on n'est pas agile à un état où on devient agile. Donc une espèce de, comme ça, de personnage un peu magique qui va nous aider à passer d'un état à un autre. C'était le concept de mon DSI tout à l'heure. Et c'est normal qu'il se pose la question, votre truc, quand est-ce que c'est fini l'amélioration continue ? Puisque ça doit être un état. D'accord ? Oui. À partir du moment où on considère que c'est un état, il y a une fin. On est stable. L'agilité, c'est penser non plus état, mais processus. Changement de logique complet. Autre exemple, on pourrait se dire, tiens, c'est peut-être une métamorphose de l'agilité. Le Larousse nous dit, c'est une modification complexe du caractère, de l'état de quelqu'un, de l'aspect ou de la forme de quelque chose. Ça, c'est aussi une illusion qu'on retrouve souvent dans les grandes entreprises qui nous disent, ouais, aidez-nous, on voudrait être comme des startups, parce qu'être comme une startup, c'est génial. Donc le grand compte, il veut être comme une start-up, et voilà l'exemple de coach agile qu'il lui faut dans ce cas-là, hein, c'est à Poudlard, le monde d'Harry Potter, c'est un baguette, parce que c'est pas possible. On ne peut pas avoir les avantages du grand compte et les avantages de la start-up en même temps. C'est juste de l'illusion. Si on continue à explorer le vocabulaire, on a transformé. Là, c'est un peu plus intéressant parce qu'il y a un aspect thermodynamique. Qui nous dit que c'est la transformation, c'est la modification que subit un système, donc là on retrouve la notion de système, du fait de ses échanges d'énergie avec le milieu extérieur, donc notion de système ouvert. On va simplement remplacer ici énergie par information. Et donc une entreprise va pouvoir effectivement se transformer puisque elle va devoir subir des modifications en raison de ses échanges avec le milieu extérieur. Donc parler de transformation, ça a du sens. Donc les systèmes vivants reçoivent de l'information en permanence, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Et puis, une des psychothérapeutes de systémique de l'école, ce qu'on appelle l'école de Milan, nous dit, mais là, ce qui change, en fait, c'est la manière dont chaque système va répondre à ces informations-là. Et il y en a qui vont choisir d'accentuer la stabilité pour s'opposer à la transformation. Donc plus de reporting, plus de contrôle. Donc ça dépend de la culture en place dans l'entreprise. Donc c'est la manière dont le système va réagir à des perturbations. Et donc amener de l'agilité, c'est amener le système à utiliser l'information pour se modifier et renvoyer de l'information sur l'extérieur. Hop là, il y avait un autre après, c'était... Encore une pensée circulaire. Donc l'agilité d'un système, du coup, une définition qu'on peut en donner, ça va être sa capacité à changer en permanence de forme au gré des stimulations, donc externes ou internes. Internes, c'est toutes les personnes, tous les services, toutes les interactions qu'il peut y avoir dans le système. Et ça, vous voyez que ça rentre complètement, donc ça c'est une notion d'incapacité et dissonance, c'est le vocabulaire qu'on utilise nous chez Swat là-dessus, c'est-à-dire les dissonances, c'est tout ce qu'on entend dans l'entreprise, défiance, désengagement, absentéisme, perte de sens, mal-être, turnover, burn-out, cassure avec le management, etc. Donc ça, ce sont des signaux. Et puis on a des signaux externes, nécessité de se réinventer, nouveaux enjeux, perte de marché, perte d'identité, nos clients qui ne sont pas contents, difficulté à innover, ça c'est la difficulté à remplir la mission de l'entreprise. Et donc l'agilité va partir de ça, va partir de ces signaux internes et externes pour essayer d'amener une transformation, c'est-à-dire d'amener à changer de forme. Mais ça, le problème, c'est que ça va heurter complètement ce qu'on fait depuis des années, qu'est-ce qu'on appelle l'industrialisation. L'industrialisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça consiste à renforcer un état en optimisant au maximum sa forme actuelle. Ça a du sens dans une logique rationnelle, hein. C'est la productivité, c'est tout cet aspect-là. On essaye de faire la même chose avec moins d'efforts. Et c'est normal. Le problème, c'est qu'à un moment donné, cette logique-là va nous empêcher de changer de forme. Parce qu'on aura tellement inscrit de règles, de procédures, de contrôles pour s'industrialiser, que quand les choses changent à l'extérieur ou à l'intérieur, nouvelle génération, etc., on n'arrive plus à changer notre forme. Et donc là, l'entreprise se retrouve en difficulté. Ça va sur cette idée-là? Donc transformer, ça ne va pas être simple quand on est dans un système qui est industrialisé, un système qui pense en termes d'État, alors qu'on va essayer à l'amener d'aller, à l'amener à aller plutôt vers une pensée de processus permanent. Donc, l'agilité, penser processus plutôt qu'état. C'est ce qu'on trouve par exemple en agilité. On va vous dire, on pense plutôt en agilité en culture produit, et donc au processus pour construire et maintenir notre produit, plutôt qu'en culture projet, où un projet, ça commence par fixer des dates, et donc par fixer des états, et ensuite des états d'avancement, etc., etc. Donc, changement de culture. Le problème là-dedans qu'on retrouve maintenant, c'est que notre fameux manifeste agile de 2001, eh ben, il nous explique en fait, ce qu'il nous décrit, c'est un état désiré. Il nous dit, il nous brosse un tableau merveilleux d'un monde où on est dans l'interaction, on amène de la valeur, etc. Donc c'est cet état désiré d'agilité, mais il ne nous explique pas du tout comment on y va. Et là, on a un problème. Il y a un seul truc dans le manifeste agile qui peut un peu nous intéresser pour nous expliquer comment y aller, c'est il nous dit, à intervalles réguliers, l'équipe réfléchit comment devenir plus efficace et ensuite ajuste ses comportements. Hop là, par rapport à ça. Excusez-moi. Déjà, vous voyez une des limites du manifeste agile, c'est que le manifeste agile, il est centré sur les équipes. Je vous disais tout à l'heure, les plaques tectoniques. Manifeste agile, l'agilité, c'est centré sur les équipes. 10 personnes. Ce n'est pas avec ça que vous allez transformer une entreprise. Ce n'est pas les mêmes concepts. Il faut raisonner autrement. Donc ça ne va pas nous aider beaucoup, ça. Et en agilité, on a souvent, si on écoute un peu les praticiens, ils disent oui, de toute façon, dans ce contexte-là, ce n'est pas possible, ils font du doing agile alors qu'il faudrait du being agile. Je vous explique ça parce que peut-être que vous entendrez ça. C'est assez curieux comme idée. C'est l'idée qu'en fait, les gens adoptent des pratiques agiles, mais ne changent pas leur manière de raisonner. Et donc, du coup, ben, on ne peut pas être agile puisqu'on n'a pas adopté ce qu'on appelle le mindset agile, l'état d'esprit agile. Le problème, c'est que, OK, mais comment on fait pour adopter du being agile, c'est-à-dire un état d'esprit agile, sans faire? Comment on fait? Donc, j'ai la réponse. Hop là. Ah. J'ai la réponse. Je suis allé très vite là, du coup. Voilà. Donc là, j'ai une photo. J'ai des problèmes avec ma zapette. Hein. Voilà. J'ai une photo d'une équipe. On y est. Qui est en train de passer de doing agile à being agile. Ils sont en train de faire ce qu'on appelle un daily meeting, c'est des réunions debout tous les jours. Et là, vous avez le doing agile, le being agile qui est en train de descendre. Il y a une espèce de miracle comme ça qui doit venir. Non, parce qu'on est dans une pensée rationnelle, une pensée qui exclut les choses. On est ou being ou doing et on doit choisir entre les deux. La logique systémique, la logique circulaire, elle nous dit, c'est un processus. Et ce processus, il est circulaire. Et donc, il va falloir à la fois faire et à la fois apprendre à changer ses raisonnements. Et on apprendra à changer ses modèles mentaux en faisant. Et parce qu'on fera, ça changera nos modèles mentaux. L'humain fonctionne de manière circulaire. D'accord? Ne fonctionne pas par exclusion des choses. Hop. Donc l'idée, toujours, agilité, je vous ai mis des cercles partout pour essayer de, c'est mon côté subliminal, ça, vous voyez, d'amener à penser circulaire. Vous avez des cercles partout. Donc une logique ternaire conjonctive, ça c'est un joli mot, pour dire qu'on change la logique traditionnelle, c'est ce qu'on appelle la logique du tiers exclu, ça nous vient du XVIIe siècle, c'est l'idée qu'une chose, elle est ou vraie ou fausse, et entre les deux, il n'y a rien. D'accord? C'est noir ou c'est blanc. T'as raison, j'ai tort. Les choses sont tranchées. La systémique, la vision circulaire, parle de processus où c'est en même temps blanc et noir. Pourquoi? Parce que ça dépend de la manière dont on regarde les choses, comme le carré et le cercle qu'on a vu en début de session. Donc l'agilité, c'est cette capacité qu'on va développer chez chaque collaborateur de l'entreprise, chez chaque manager, à progressivement penser de manière circulaire, penser de manière conjonctive, c'est-à-dire qu'on va passer au oui-et là où on avait le oui-mais, qui est un oui d'exclusion. Et petit à petit, ça va amener des nouveaux comportements qui vont renforcer nos nouveaux modèles mentaux, etc. etc. Donc, ternaire. C'est pas nouveau, hein, je vous ai mis une citation d'un vieux chinois qui dit des choses un peu comme ça. Et donc, avec ça, on va pouvoir apprendre. Apprendre, c'est le mot-clé de l'agilité. L'agilité, c'est toujours se poser la question, puisque ce monde, il est en train de changer, on va assumer un truc qui est je ne sais pas ce que je ne sais pas. Ça, c'est un des présupposés forts du travail dans la complexité. À un moment donné, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Ça, c'est dur pour un manager. C'est dur pour quelqu'un qui a fait bac plus 5, plus 8, plus 12, machin, de dire je ne sais pas. Et je ne peux pas vous répondre. C'est vachement dur, ça. Il n'est pas préparé à ça. Ou elle n'est pas préparée à ça. Mais l'agilité, c'est ça. C'est d'accepter ça et de se dire, OK, donc du coup, la question n'est pas quelle réponse intelligente je vais donner. La question est comment on va se mettre en capacité d'apprendre ensemble. Par une logique cybernétique, j'essaye, ça marche pas, ça marche, je continue, ça marche pas, j'arrête. Pensée circulaire, donc. Alors, un dernier gros morceau, l'homéostasie. Peut le regarder longtemps, celui-là. Ça bouge et en même temps, ça reste à la même place. C'est fabuleux, ça. Donc, l'homéostasie, qu'est-ce que c'est? C'est une notion, donc c'est une des propriétés d'un système. Un système, on a dit tout à l'heure que sa première. Il avait une finalité, hein, c'était une des caractéristiques. Donc, première finalité, c'est de se perpétuer. Et donc, pour ça, un système, il a des mécanismes de survie. Et l'homéostasie, c'est un nom savant pour décrire des mécanismes de survie. En tant qu'être humain, je suis un système, vous êtes un système, vous êtes des systèmes, et on est un ensemble de systèmes. Et en tant qu'être humain, on a des systèmes qui fonctionnent complètement de manière automatique, déconnectés de notre cerveau. On n'a pas besoin de penser à réguler, par exemple, notre chaleur interne. Or, c'est vital. D'accord? On a un corps qui a une amplitude de chaleur interne qui est extrêmement limitée. Oh, je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle, mais je vais simplifier. En gros, moins de 35, on ne va pas bien, quoi. Pronostic vital est engagé, d'accord? Hypothermie. Plus de 43, on va dire. Pronostic vital aussi engagé. Hein, à peu près. Ça dépend des gens, bien sûr. Et donc, on a des mécanismes qui vont s'occuper de réguler ça pour nous. Quand notre température s'élève, qu'est-ce que fait notre corps? Aidez-moi. Il transpire. On n'a pas besoin de penser, tiens, j'ai chaud, je vais transpirer. D'accord? Donc c'est un mécanisme qu'on appelle homéostatique, qui vise à diminuer la température en évacuant le trop-plein de chaleur par la transpiration. Si j'ai froid, qu'est-ce que je fais? Je tremble, d'accord? Donc je provoque une agitation qui vise à me réchauffer automatiquement. Donc mécanisme homéostatique. Donc notre température, c'est ce qu'on a représenté là, elle varie entre une norme, un minimum, un maximum, donc 35 et 43 par exemple pour la chaleur. Et tous nos mécanismes de survie sont des mécanismes comme ça, homéostatiques, qui varient entre certaines bornes. Et le modèle faux, hein, vous vous rappelez, tous les modèles sont faux, donc ce que je vous raconte là, c'est complètement faux, mais c'est utile. Le modèle du type de changement qu'amène Palo Alto dit en fait, on a deux types de changements si on regarde cette caractéristique d'homostatique. On a un changement qui se produit dans la norme. C'est ce qu'on va appeler le changement type 1, c'est le premier, où on s'adapte par rapport aux normes de fonctionnement. C'est souvent ce qu'on appelle le changement en entreprise. Mais le changement, ça vise en fait à rester la même chose, homéostasie. Et puis on a un deuxième type de changement, c'est quand on change la norme. Par exemple, si on reste dans les histoires de température, chez vous, vous avez peut-être des radiateurs, j'espère pour vous, et enfin non, il y a une maison passive, mais non, mais donc si vous avez des radiateurs, vous avez peut-être un endroit où vous pouvez régler la température souhaitée dans la pièce. Ça, c'est la norme. D'accord? Si vous fixez votre norme à 20 degrés, la température va osciller, de temps en temps, ça dépasse un petit peu, ça va osciller autour de 20 degrés. Si vous changez votre norme et vous mettez à 22 parce qu'il y a votre belle-mère qui vient, qui a toujours froid, donc il faut mettre plus fort. Donc 22 degrés, vous avez changé la norme, vous amenez un changement qu'on appelle de type 2. On change les règles de fonctionnement du système. La transformation agile, elle se produit là. La transformation agile ne se produit pas dans un changement de type 1 où on garde la même chose, mais ça c'est quand j'appuie au milieu, dans un changement de type 2. Hop. Et donc ça c'est compliqué parce que changer la norme d'un système, vous comprenez bien que le système il va pas forcément être d'accord tout de suite. Hein, donc ça va demander de gros gros efforts et des efforts dans le temps. C'est pas simplement un truc qu'on peut décréter puis ça y est c'est fait. Donc agilité, souvent ça va être un changement de norme. Donc on va remettre en question nos logiques d'action. Et les logiques d'action, elles sont engrammées dans nos modèles mentaux, donc dans des processus qui sont inconscientisés, qui résultent de l'apprentissage. Donc ça va prendre beaucoup d'efforts et beaucoup de temps pour arriver à changer ces choses-là. Donc on a des outils pour ça, on a des modèles qui nous aident à regarder ça. On utilise par exemple donc des ateliers d'amélioration continue ou des rétrospectives. Alors, en fait, on regarde les résultats, les conséquences de ce qu'on obtient. On regarde ce qui ne nous plaît pas. Dans ce qu'on obtient. Et on se pose la question, pour obtenir ce qu'on obtient, quels étaient les buts, les stratégies, les techniques qui nous ont amenés à ce résultat-là? Comment est-ce qu'on est arrivé à obtenir ce résultat dont on n'est pas satisfait? Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre le problème, améliorer le système? C'est très bien. Simplement, ça, c'est du changement de type 1. On reste dans les normes existantes. Donc c'est par exemple ce qu'on obtient quand on utilise la technique des 5 pourquoi, je ne sais pas si vous connaissez ça, qui nous vient du Lean. Le Lean va être souvent quelque chose qui va fonctionner par rapport à des standards, donc par rapport à une norme existante. Donc c'est un excellent mécanisme pour améliorer l'existant. Mais ce n'est pas un mécanisme de transformation. Si on veut se transformer, il faut aller plus loin. Il faut se poser la question, ces stratégies, ces techniques, ces buts, obéissaient à quelles hypothèses, à quels modèles mentaux sous-jacents? C'est-à-dire pourquoi on a mis en place ce qu'on fait. Et là, on va aller questionner des choses assez profondes, mais c'est à ce prix-là qu'on pourra réellement dire qu'on intervient dans une transformation d'entreprise. On change la forme existante, et la forme se concrétise dans les modèles mentaux, et s'observe au travers des comportements. Donc c'est ce qu'on a appelé l'apprentissage en double boucle. Le changement, c'est la première boucle, et la transformation, c'est la seconde boucle. Donc, notre questionnement quand on intervient dans une entreprise qui nous demande de l'agilité, ben, ça peut être déjà qu'est-ce qu'on attend de nous? Parce que souvent, les gens vont nous demander de l'agilité. Si nous, en tant que coach, on intervient en disant ben, tiens, il faut transformer et qu'en face, l'interlocuteur, il attend simplement du changement, ça va secouer. D'accord? On ne va pas être tout à fait d'accord. Donc, c'est des conversations à avoir, des choses à éclaircir. Quel type de changement est attendu? Quels apprentissages vont être nécessaires pour ça? Et donc, à chaque fois qu'on dit apprentissage, on dit aussi désapprentissage. Et le plus compliqué, c'est le désapprentissage. Quel type de changement va amener le coaching? Par exemple, si on applique ça à Scrum, quand on met en place Scrum, est-ce que Scrum va remettre en place, va remettre en question, pardon, la norme existante? Si ce n'est pas le cas, c'est que si ça ne change rien aux modèles mentaux qui sont en place, aux comportements qui sont en place, on est en train de faire de l'amélioration. Et ça peut être OK, il faut simplement en être conscient, rendre visibles les choses pour pouvoir inspecter et adapter. Sinon, oui, on va aller questionner les hypothèses sous-jacentes, les valeurs et les croyances vont être questionnées, on va partir sur la transformation. Vous comprenez bien que ici, si on ne met pas en place des mécanismes avec un sponsoring très fort qui remonte tout en haut de la chaîne de responsabilité, ça ne va pas marcher. Donc il faut expliciter qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire. Et puis mettre en place les bons processus derrière. Teresa Garcia, donc une autre psychothérapeute, nous dit ben, quand on fait de la transformation systémique, on a le système, et le système, il est dans un environnement. Et comme le système échange de l'information avec l'environnement, il y a des interactions, et donc la transformation du système, qu'est-ce qu'elle fait? Elle impacte l'environnement. C'est pour ça que Toyota, par exemple, quand ils ont petit à petit élaboré, fait émerger le Toyota Production System, ils ont formé leurs fournisseurs à ce qu'ils avaient trouvé eux pour aller impacter leur environnement. Souvent, quand on met en place Scrum, hop là, je pense que je dois avoir un problème de pile. On a l'illusion qu'on va faire de l'agilité limitée aux équipes. Vous voyez que d'un point de vue systémique, c'est une illusion. C'est-à-dire que si les équipes bougent, elles vont échanger l'information avec le reste de l'environnement et donc elles vont demander au reste de l'environnement de bouger aussi. Donc si on veut aller vers une transformation, il va falloir se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire de l'impact qu'aura la mise en place de Scrum sur l'écosystème. L'écosystème étant les RH, étant la finance, étant les achats, tout ça va être impacté, même si on n'intervient que localement sur des équipes agiles. Voilà, on arrive à la fin. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de concepts, donc on va essayer de récapituler un petit peu pour vous aider. Donc la première chose, c'est de considérer que l'agilité, c'est une rupture avec ce qu'on a appelé l'approche mécaniste, donc qui nous vient de Taylor, mais qui au-delà nous vient de Newton et Descartes, qui est de dire on est dans un monde où les choses sont prédictibles, peuvent être certaines, et où on peut rechercher l'efficience. On est contraint uniquement par notre capacité à faire, donc production de masse. Du coup, ce qui nous intéresse, c'est la stabilité de nos processus de production. On a des gens là-dedans qui sont capables de penser, qui sont les leaders, et ceux-là vont pouvoir décider ce que les autres feront. Et les autres, tout ce qu'ils auront à faire, c'est d'adhérer aux processus qui ont été savamment construits ici. Et tout marchera très bien. Ça a pas mal fonctionné pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué de fonctionner sur ce paradigme-là. Parce que, eh ben, on n'a plus ces notions-là. Donc tout le reste, du coup, s'effondre. Donc l'agilité, ça peut être considéré comme un 180 degrés, dont on parlait tout au début, par rapport à l'entreprise mécaniste, qui fonctionne sur des paradigmes linéaires, cartésiens, séquentiels, prédictifs, dualistes. Dualiste, c'est vrai ou faux, ça ne peut pas être vrai et faux en même temps. Toujours plus de la même chose, donc on essaye toujours de faire plus de la même chose, mais le faire mieux. Le 180 degrés par rapport à ça, c'est on n'essaye pas de faire plus de la même chose, on a une pensée cybernétique, on regarde le feedback, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. Et puis on inverse, linéaire, on devient circulaire. Ici, holistique, on considère l'impact complet sur le système. On fonctionne en itératif et non pas en séquentiel. On fonctionne de manière empirique et non pas prédictive. Et on fonctionne de manière humaniste et non pas dualiste. C'est-à-dire on considère que des choses peuvent être en même temps vraies et fausses. Ça dépend du point de vue de l'observateur. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler l'approche agile. Donc vous voyez que ce n'est pas rien. Ce n'est pas un truc qu'on met en plus. C'est un truc qui remplace les modes de pensée, les modes d'action qu'on avait. Donc l'idée, pour reboucler avec ma proposition du départ, c'est que donc on avait la systémique, on a Palo Alto, qui a, vous vous souvenez, Vaslavik nous disait ce qu'on fait en thérapie, ça pourrait marcher aussi en management. Ça pourrait marcher aussi pour les organisations. L'idée que je vous propose, c'est de considérer qu'en fait, ce qui va permettre de faire que ça marche dans les entreprises, pour le management et dans les organisations, c'est d'utiliser l'agilité. C'est d'utiliser le savoir-faire qu'on a accumulé en travaillant dans l'IT, mais en allant aujourd'hui au-delà pour amener ce type de raisonnement-là. La question que vous pourrez me poser, c'est ouais, c'est des trucs des années 50, 60, 70, c'était en noir et blanc, tout ça, c'est vieux, quoi. C'est vrai. C'est vrai, changer de paradigme, c'est long, quoi. Hein, quand on a inventé l'électricité, par exemple, il a fallu 20-30 ans pour que les entreprises changent leur structure, qui était fondée sur la vapeur, pour tirer parti de ce nouveau, cette nouvelle énergie. Ça prend du temps de réorganiser des organisations. Parfois, c'est difficilement actionnable. Oui, tous ces concepts-là, effectivement, on comprend des choses et en général, c'est le premier état. On dit oui, ok, je vois maintenant un peu plus des systèmes fonctionner. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et effectivement, adopter un point de vue systémique et savoir après l'utiliser pour faire transformer les choses, ça demande de l'apprentissage et donc ça demande du temps. Et puis, on a à faire face à ce que j'appelle la confusion, donc ça, c'est une théorie, ça nous vient de Bateson, confusion dénéologique qu'on a tout le temps, tout le temps. C'est qu'on confond en fait le symptôme avec le processus qui a conduit au symptôme. Et donc, quand on intervient, qu'est-ce qu'on fait? On prend de l'aspirine parce qu'on a mal à la tête, donc on corrige le symptôme, et on ne regarde pas, mais qu'est-ce qui a fait que j'ai mal à la tête? Pour essayer de travailler plus en profondeur et de se dire qu'est-ce que je pourrais faire pour éviter d'avoir de nouveau mal à la tête et devoir de nouveau prendre un aspirine. Pour prendre une analogie, c'est aussi ce qu'on peut avoir en ostéopathie ou des choses comme ça. C'est comment on considère en fait le processus qui a amené à avoir un moment une douleur, mais la douleur dans le genou, c'est peut-être un problème au talon. Et pour ça, il faut considérer l'ensemble du mécanisme. Au niveau aussi du temps, ouais, l'agilité, la systémique, ben, ce n'est pas du temps court. Ça va demander d'investir dans la durée. Et ça, c'est difficile pour les entreprises qui sont habituées au court-termisme et de plus en plus par des logiques financières. Vouveille, ça date, je crois, de plusieurs centaines d'années. Hein, je n'ai pas la date exacte, mais ouais, il nous disait déjà, on ne tire pas sur les plantes pour les faire pousser plus vite. La vie, ça a des limites. Et à un moment donné, faut en tenir compte. On n'est pas dans un monde de robots, pas encore. Okay. Donc, je récapitule vite fait. Expliciter ses prémices pour pouvoir les inspecter, les adapter, c'est ce qu'on a vu tout au début. Quand ça ne marche pas, la cybernétique, je regarde le feedback, j'écoute les signaux faibles et je fais autre chose, je change. Je ne m'obstine pas à réessayer de faire toujours plus de la même chose. C'est sortir de l'auto-tromperie, des illusions, la maîtrise du temps, le contrôle des variables, des choses comme ça. Donc, le fait de rechercher une transformation tout en continuant à utiliser une logique traditionnelle, ça ne marche pas. C'est changer d'un état vers un autre, oui, mais via un processus. Donc, c'est se transformer en permanence et de manière continue. Donc rentrer dans des processus d'amélioration continue et non pas dans un état illusoire d'agilité. C'est une pensée circulaire, ça j'en ai mis plein partout, donc qui utilise au maximum les boucles de feedback pour toujours faire de la régulation. En systémique, par exemple, on dit qu'on ne contrôle pas un système, on le régule, ce qui est une approche complètement différente. Cette logique, elle est conjonctive. Rappelez-vous, donc cette notion de c'est pas blanc ou noir. Ça peut être les deux, ça dépend du point de vue de l'observateur. Un système va toujours chercher à retrouver un état d'équilibre. Sinon, le système n'existerait pas. Il aurait déjà disparu s'il n'avait pas ces mécanismes-là qui font qu'il existe. D'accord? Donc, la résistance au changement, d'un point de vue systémique, c'est une propriété positive. C'est ce qui permet au système d'être là et d'exister. Donc, amener du changement dans un système, ça va toujours provoquer la résistance au changement. C'est normal. Donc, là aussi, on sort de l'illusion, on va dire, OK, c'est normal, le système, il va bouger. À partir du moment où je pousse, il va y avoir une réaction. Donc, comment je vais faire par rapport à ça? Il va falloir que je mette en place des processus de régulation. Une transformation, c'est un apprentissage. Ce n'est pas simplement quelque chose que je rajoute de manière cosmétique par-dessus autre chose. Et donc c'est un apprentissage profond qui va remettre en cause les hypothèses, les croyances, les valeurs, la culture, donc des choses qui sont extrêmement inconscientisées, profondes, donc ça va demander du temps. Ça va demander aussi que ce soit un effort collectif. On ne peut pas demander simplement à une seule personne de changer si l'environnement autour ne change pas. La systémique, c'est un foisonnement de courants, donc j'ai expliquer les origines dans la thérapie. On l'applique aux entreprises, aux organisations. On l'applique en domaine, par exemple, dans la diplomatie, sur des crises entre différents États. C'est des choses qui sont des principes qui sont utilisés aussi. Et la proposition donc de cette conférence, c'est de dire bah, l'agilité va permettre d'actionner ce changement de paradigme apporté par la systémique pour essayer de faire un peu mieux dans les entreprises aujourd'hui et surtout avec un peu moins de souffrance. Donc soutenir cette idée d'une transformation permanente. Voilà. Systémique, agilité en interaction circulaire et c'est fini. Voilà.
Merci.
Non, c'est là, merci. Si vous n'êtes pas hyper affamé, on peut prendre quelques questions. Vous aurez plein de bouquins. Parce que moi, j'aime bien les bouquins. Il ne veut pas y aller. Mais enfin, vous avez plein de bouquins dans les slides de référence pour aller. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une ou deux questions, si vous voulez, avant qu'on aille manger. Ou si vous êtes totalement gavé, il y a assez. Ouais, c'est bon? Eh ben, bonne continuation et puis merci beaucoup d'être venu là.